parole de Dieu et basé sur la parole de Dieu, voir ce que Dieu a à nous dire à chacun de nous. Et j'avais demandé qu'on chante ce beau cantique que nous venons juste de chanter, juste avant que je monte ici sur la tribune, et qui nous parle qu'on veut vraiment connaître la volonté de Dieu. Et j'espère que pour chacun de vous, jeunes ou moins jeunes, vous avez vraiment à cœur de connaître la volonté de Dieu, parce que ça devrait être la chose la plus importante. Après avoir reçu le Seigneur Jésus comme votre Sauveur, eh bien, vous devez avoir ce désir de connaître la volonté de Dieu. Et vous êtes peut-être un peu surpris de, quand vous avez lu le feuillet ce matin en entrant, que c'est écrit « La recette pour être un homme parfait ». J'avais donné ça, puis c'est écrit sur autre chose, et il y a le petit mot qui sont rajoutés, les deux derniers mots, hein, « Selon Dieu ». Moi, je suis pas Jeannette Bertrand pour essayer de vous donner ma pensée à moi, mais je veux vous donner vraiment la pensée du Seigneur sur ce grand sujet important. Et j'en suis convaincu que peut-être qu'il y a des sœurs qui se sont dit, en arrivant puis en voyant ça, « Ah, ça va être bon pour mon mari à matin, la recette pour être un homme parfait ». Ben, en même temps, je pense que ça va aller pour les deux aussi, ça sera pas juste pour les hommes. Et le texte qu'on va lire ensemble dans quelques instants va se trouver dans Philippiens, puis c'était bon ce matin ce qu'on a eu auparavant à propos de Philippiens, comment l'apôtre Paul, dans tous ses combats, prie, puis nous demande de prier aussi. Et c'est pour cela que, comme je l'ai dit, peut-être que ce matin, si j'aurais demandé aux femmes d'inscrire leur mari pour venir écouter ce que je vais vous dire ce matin, peut-être qu'il y en aurait beaucoup qui auraient inscrit leur mari en disant « J'espère que mon mari va écouter, là, puis qu'il va prendre des notes. » Ben, soyez convaincus, peut-être que je me suis dit, ben, peut-être que ma femme m'aurait inscrit le premier. Mais c'est vraiment ce que le Seigneur va nous dire ce matin, puis on a besoin, surtout dans les temps dans lesquels nous vivons, où il y a toute cette tumulte et en même temps aussi cette fausse ressemblance au Christ et à la chrétienté. On essaie de plus en plus d'imiter les chrétiens et il y a tellement de religions qui nous entourent autour de nous, de sectes, que souvent on se pose la question, mais où est-ce qu'elle est la vérité et comment est-ce que le monde va pouvoir le voir? Bien, ce matin, on va voir à propos de la recette pour être un homme parfait parce que il faut être selon ce que Dieu veut de nous, parce que être parfait, c'est être selon le cœur de Dieu. C'est être une personne qui est accomplie, qui écoute la parole de Dieu, qui la médite et qui la met aussi en pratique. C'est bon que vous veniez ici de semaine en semaine pour écouter la parole, mais ce qui est encore mieux, nous dit la parole, hein, c'est celui qui la met en pratique. Moi, je suis pas là pour vous juger ce matin. On a prié avant la réunion avec un frère et puis c'est ce qu'on se dit ensemble. Hein. Moi, je suis pas là pour viser personne ce matin. Et il se peut qu'après la réunion, si vous m'aimiez au début, vous allez peut-être me trouver moins aimable. Mais ce sont pas mes paroles à moi. Je veux vous transmettre le message du Seigneur puis je veux que chacun de nous, autant comme moi, je me sente vraiment concerné par cette parole, que je me dise... Eh bien, Seigneur, tu as quelque chose à me parler, parce que tu veux te servir de moi. Puis il y a des chrétiens, des fois, qui nous posent la question, mais pourquoi est-ce que le Seigneur ne se sert pas de moi? Pourquoi que il me semble que je me sens pas utile pour Dieu? Ben Dieu a des critères. Et il veut se servir des personnes qui sont selon ses critères. Bien entendu, on voit un homme parfait. Il n'y a personne de nous qui sommes parfaits. Souvent, on se dit ça, hein? Et pourtant, où est-ce que j'ai pris le titre de cela? Ben, dans Philippiens, au chapitre 3, et au verset 15, ça nous dit, nous tous, donc, qui sommes des hommes faits. Et dans d'autres traductions, ça dit, hein, des hommes parfaits. Et vous savez, pour en arriver à être une personne parfaite et accomplie selon Dieu, il y a des critères. Et je pense un peu comme une recette. Et vous savez, des fois, on prépare des recettes. Ma femme prend des chances, des fois, en me disant, ben, je veux que tu prépares telle recette. Elle me laisse la feuille, puis tant bien que mal, en tout cas, j'essaie de suivre, puis ça arrive. Ça m'est déjà arrivé, à un moment donné, de sauter un élément qui était important. Puis je me suis aperçu que, vous savez, hein, à la fin, hein, d'essayer de faire une bonne recette parfaite, et puis oups, vous apercevez que c'est pas parfait. Hein, pourquoi? Mais vous avez négligé un élément qui était important. Et pour être un homme, puis une femme, accomplie selon Dieu, Dieu nous a laissé des critères, et puis ensemble, on va les lire. Et comme je l'ai dit, hein, c'est pas ma recette à moi, c'est pas les éléments que Dieu, que j'ai pris de ma tête, mais ce sont des vérités qu'on va lire basées sur la parole de Dieu. Et j'espère, je remarque beaucoup de jeunes parmi nous ce matin, je suis vraiment reconnaissant pour Dieu pour cela, parce que, en même temps, les jeunes filles puis les jeunes hommes qui grandissent, vous pensez à un moment donné, hein, tout normal, comme toute jeune fille, tout jeune homme, vous pensez de rencontrer l'homme parfait, celui que vous allez marier qui va être parfait, ou la femme parfaite. Eh bien, quand vous allez entendre et que vous allez lire avec moi ce qu'on va lire à travers la parole de Dieu, eh bien, c'est de cette sorte de perfection que vous devriez rechercher vers celui ou celle que vous désirez avoir comme votre futur époux ou épouse. Ce n'est pas l'extérieur qu'il va falloir regarder, mais l'intérieur du cœur de celui à qui vous voulez donner votre cœur. C'est ça qui est important. Alors, on a devant nous une recette. On va lire ensemble les versets. Philippiens au chapitre 3. Et on va partir du verset 7 jusqu'au verset 14. On va les lire ensemble parce que c'est la base de ce qu'on va parler ce matin. Et nous lirons après ça les versets 17 à 21. Alors, à partir du verset 7, on lit ces mots. « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. » À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui s'obtient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Au verset 12, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. » Maintenant, nous allons lire à partir du verset 17. « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous, car il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix. Je vous en ai souvent parlé. » Et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous, nous sommes concitoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. » Alors que le Seigneur puisse bénir un matin ce message pour chacun de vous, et j'espère que vous allez sortir en ayant ces notes, en ayant cette réflexion, que c'est le désir de Dieu pour chacun de nous. Il nous veut vraiment pour sa gloire et pour son honneur. Et vous savez, comme je l'ai dit, hein, les étapes que nous allons voir ce matin, on ne pourra pas les inverser. Parce que si on essaie de préparer un gâteau puis qu'on le fait à l'inverse, on sait qu'à un moment donné, hein, ça va pas monter comme il faut puis ça produira pas ce qu'il faut. Et comme je l'ai dit, pourquoi que quelquefois on se pose des questions, il y en a qui nous demandent, mais pourquoi est-ce que je ne suis pas un homme parfait, selon Dieu, accompli? Eh bien, il y a peut-être des ingrédients, certains ingrédients dans ma vie qui ne se trouvent pas là, qui manquent, ou que je me sers pas et que je devrais me servir. Alors ensemble, on va voir ces ingrédients qu'il nous faut dans notre vie pour être des hommes vraiment accomplis selon Dieu. Le premier, on l'a lu au verset 7. Dans ce verset 7 qu'on a lu, cette expression immédiatement en partant, « mais ces choses qui étaient ». Alors, de quoi est-ce que ça nous parle, « mais ces choses qui étaient » ? Eh bien, ça nous parle de quelqu'un qui a changé de direction, de quelqu'un qui s'est converti. Alors, si vous voulez être un homme accompli selon Dieu, le premier pas, le premier ingrédient de votre vie doit être une personne qui connaît le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel. C'est la priorité, c'est la première chose. Et les pas de cette personne qui a accepté Jésus et qui est sauvée va avoir changé dans sa vie. On n'a qu'à penser à cet exemple que nous avons de l'apôtre Paul, qui s'appelait autrefois Saul de Tarse. Vous l'avez certainement lu dans vos Bibles, dans le livre des Actes, au chapitre 8 et au chapitre 9, qui nous relate comment est-ce que c'est que Paul était autrefois un persécuteur d'Église, un homme violent, qui méprisait les chrétiens. Mais au chapitre 9, il y a eu cette rencontre avec Jésus qui a tout bouleversé sa vie et qui a fait en sorte que Paul a donné sa vie à celui qui, lui, ne le connaissait pas, mais que le Seigneur s'est révélé à lui. Et donc, l'apôtre Paul est devenu un serviteur de Dieu, un sauvé. Et j'aime beaucoup cette expression que je vous le cite par cœur et que vous pouvez relire chez vous dans 1 Timothée, au chapitre 1, versets 13 et 14. Ce même Paul nous dit, hein, « Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais qu'est-ce qu'il dit? J'ai obtenu miséricorde. » Il a obtenu miséricorde. Et après qu'il a été sauvé, qu'est-ce qu'il est devenu, l'apôtre Paul? Ben, il a continué à être violent, puis à être un gars de « tassez-vous, hein? » Non, ce n'est pas cela que l'Écriture nous donne. Lisez-les dans les Écritures. Vous allez voir un apôtre, un homme qui était autrefois violent, qui a été transformé complètement. On le lit dans les lettres de l'apôtre Paul, vous pouvez les relire. Et voyez comment est-ce que c'est qu'il parle avec cœur, comment est-ce qu'il prie pour les âmes, pour ceux qui sont perdus. Et il est prêt à aller même donner sa vie afin que le monde entende parler de ce sauveur. Ça, c'est un homme transformé. Ça, c'est une personne sauvée qui aime son sauveur. Et ce matin, moi, je vous connais pas tous, mais j'espère que chacun de vous, hein, vous connaissez ce Jésus comme votre sauveur personnel. Parce que si vous ne le connaissez pas, ben vous pourrez pas connaître les autres pronoms après. Vous pourrez pas avancer un peu plus loin. Il vous faut cette rencontre avec le Christ, vous reconnaissant comme perdu, mais acceptant ce Jésus comme votre sauveur. Et parce que je suis et que j'ai accepté Jésus comme mon sauveur personnel, pourquoi est-ce que mes pas ont changé de direction? Pourquoi est-ce que dans ma vie, parce que j'ai accepté Jésus comme mon sauveur personnel, pourquoi que ça change dans ma vie des choses? Eh bien, la deuxième chose, c'est au verset 8, parce que je suis maintenant quelqu'un qui connaît le Christ comme mon Seigneur. Et il y a cette expression, hein, l'excellence de sa connaissance, l'excellence de la connaissance de Jésus. C'est beau de connaître Jésus comme sauveur, mais cela n'est pas la fin de tout. C'est le début de la vie. On accepte Jésus comme sauveur personnel, et le deuxième pas, c'est que Jésus devient le Seigneur de ma vie. C'est pas juste le Seigneur, c'est pas juste le Sauveur. Et ce matin, moi, je veux pas juste vous parler de ce petit Jésus qu'on nous a parlé, hein, qui est né dans la crèche et qu'on se rappelle dans le temps de Noël ou à Pâques, ou ce que c'est qu'à un moment donné, hein, on est un peu sensibilisé aux choses chrétiennes. C'est plus que cela. Avoir Jésus comme Sauveur, ça veut dire aussi que je le veux comme le Maître, le Seigneur de ma vie, l'excellence de sa connaissance. Il y a cette communion, il y a cette rencontre avec ce Sauveur et aussi le Seigneur de ma vie. Et parce qu'il est aussi le Seigneur de ma vie, je suis quoi? Je suis quelqu'un qui vit et qui marche en relation avec lui. Et on trouve ces expressions au verset 9, « Trouver en lui, en Christ ». Et j'aimerais vous poser la question comme je me suis posée. Est-ce que ma femme, mes amis autour de moi, est-ce qu'ils voient que je vis et puis que je marche en relation avec le Christ? C'est beau de dire que je suis chrétien, j'ai accepté Jésus comme mon sauveur personnel, puis que, oui, il est le Seigneur de ma vie. Mais est-ce que c'est manifeste autour de moi? Est-ce que les gens autour de moi peuvent le dire? C'est vrai, il a accepté Jésus comme son sauveur, il est son Seigneur parce que je le vois, il vit, puis il marche aussi. Il y a un frère qui nous a raconté une histoire qui est vraie. Il travaille pour une compagnie très loin dans le bois et puis il y a un jeune homme qui se convertit, donne sa vie au Seigneur. Et puis là, il est appelé à partir pendant 2 mois pour aller travailler dans le bois, loin de son foyer, loin de tous les autres chrétiens. Et puis là, le jeune homme venait tout juste d'accepter le Seigneur, puis il disait qu'il avait donné sa vie au Seigneur, puis au Sauveur. Et puis là, il s'en va là dans le bois travailler. Et puis après les 2 mois, quand il est de retour, alors le chrétien a hâte de voir, puis il lui dit, « Puis, comment est-ce que ça s'est passé? Toi, tu étais seul comme chrétien, puis avec les autres qui étaient là, qui étaient non convertis, comment est-ce que ça s'est passé? » Et puis le jeune chrétien de lui dit, « Ah, ben tout a bien été. Ça s'est très, très bien passé. » « Ah oui, mais comment ça? » Ah, ben, il dit, « Il n'y a pas personne qui s'était perçu que j'étais chrétien. » Donc, ça a bien été. Ah, mais alors, hein, il y a un sérieux problème là. Parce qu'on devrait, nos employeurs, nos professeurs d'école, nos amis que l'on côtoie, nos voisins, devraient savoir que on n'a pas une étiquette sur le front chrétien évangélique, sauvé par la grâce, mais ils devraient le voir par nos vies, par notre relation avec notre maître. Ça devrait être vraiment évident. On ne devrait pas être obligé de « Hey, écoute, moi je suis un évangéliste. Je vais donner ma vie au Seigneur. » Puis là, le monde nous regarde et dit « Si c'est ça un évangéliste, hein, moi j'aime mieux être resté comme je suis. Hein. » J'espère que ce n'est pas comme ça pour nous. Et quand on a accepté Jésus comme sauveur, qu'il est devenu le Seigneur de ma vie, il y a eu un changement dans ma vie. Il y a quelque chose qui s'est passé. Puis le monde autour de nous, ils s'aperçoivent que je marche, puis que je vis pour ce Jésus. C'est pas de la religion. On en a entendu parler pendant plusieurs années. Moi, j'ai connu la religion, la grande religion d'autrefois. Mais c'est pas de cela qu'on veut parler. Puis j'espère que vous êtes pas ici pour entendre parler de religion. Moi, je veux vous parler d'une personne. Une personne qui nous aime et qui veut changer nos vies. On a besoin d'être changé. Parce que le monde cherche partout autour de nous qui dit la vérité, qui est vrai. Mais c'est pas juste de dire, « Ah, hey, écoutez, nous autres, on a la vérité. » La vérité se trouve dans les gens qui la vivent. Pas dans les gens qui le disent, mais qui la vivent vraiment, authentique. Je vis pour Jésus, je marche avec lui. Pourquoi? Parce que j'ai cette relation avec le Christ. Il me parle, il me corrige, oui, c'est vrai, il y a des fautes dans ma vie, je tombe, mais il est là, mon sauveur, puis il me relève, il m'instruit, il est là pour me diriger, mais il faut que le monde le voie. Si le monde ne le voit pas, comment est-ce qu'ils vont se convertir? On a beau distribuer des traités, on a beau faire des invitations au monde, mais s'ils ne voient pas que le Christ, il est en moi, il vit, il change des vies. C'est ce que le monde veut voir. Des personnes transformées, des personnes vraies, des personnes authentiques pour Dieu. Et parce que je vis puis que je marche en lui, le quatrième ingrédient qui est là, C'est quelqu'un qui s'est engagé pour le Christ. Et vous avez cette expression, verset 12, qui nous dit, « Je cours, mais je cours pour tâcher de le saisir. » On en parlait à la réunion avec un frère. Hein. Il nous dit, nous, les plus âgés, hein, on court peut-être un petit peu plus au ralenti à cause de notre âge, mais on est toujours dans la course parce que on veut s'engager, puis on s'est engagé pour le Christ. On peut pas rester indifférent. On peut pas rester indifférent. Le Christ change des choses. Il veut se servir de nous. Il veut que nous vivions pour lui, que nous le servions. Et puis là, je peux immédiatement connaître un peu des pensées comme j'ai déjà eu dans mon cœur. Ah, Jean-Louis, tu sais, moi, là, maintenant, j'ai été blessé, puis je ne fais plus rien pour le Seigneur. J'ai été blessé par un frère ou par une sœur dans l'assemblée, et puis là, maintenant, je suis arrêté, je ne veux plus rien faire. Eh bien, vous vous êtes déjà arrêté à cette pensée-là? Avez-vous déjà considéré le Seigneur Jésus lorsqu'il est venu ici-bas et qu'il a donné sa vie pour chacun de nous? Moi, j'ai réalisé ça un jour, hein? Eh bien, le Christ, il a souffert, il a été méprisé pour moi, à cause de moi. Il a été blessé. Est-ce qu'il s'est arrêté? Puis il a dit, ah, ben, écoutez, là, moi, là, je suis une personne parfaite. J'ai rien fait de mal au monde. Au contraire, j'ai guéri des lépreux. J'ai fait retrouver la vue à des aveugles. J'ai nourri une multitude de personnes. Puis vous, vous me blessez en me clouant sur la croix. On a été blessé. Est-ce que le Christ n'a pas été blessé pour vous à la croix du calvaire? Eh bien, pour moi, il a été blessé. Il a été blessé, cloué sur cette croix, parce qu'il m'aimait. Et nous, à cause de notre moi qui est blessé, on va s'arrêter dans notre course, dans notre engagement pour le Seigneur. Le Seigneur ne nous a jamais dit, hein, quand on l'a confessé dans les eaux du baptême et qu'on nous a posé ces deux questions, « As-tu accepté Jésus comme ton sauveur personnel et désires-tu le suivre? » Le Seigneur ne nous a pas dit, hein, « Si tu m'acceptes comme sauveur puis si tu t'engages à me suivre, tout va bien aller dans ta vie. Il n'y a pas personne qui va te blesser. Il n'y a pas rien qui va t'outrager. Il n'y a pas de douleur que tu vas avoir. » Mais non. On est invité à regarder à travers les Écritures, hein? Tournons-nous les regards vers Jésus et qu'est-ce qu'on voit? Une personne qui ne méritait pas cela, mais il a souffert pour moi et pour chacun de nous. Il a souffert pour vous ce matin et vous ne prendriez pas cet engagement pour Dieu, pour le servir. Vous vous trouveriez des excuses. « Ah, mais Seigneur, j'ai été blessé ou je me sens pas digne de te servir. » Mais tu n'as pas besoin de te sentir digne. C'est lui qui va te rendre digne. C'est lui qui va changer ton cœur. C'est lui qui va changer tes attitudes. Qui va te transformer parce qu'il t'aime. En es-tu vraiment conscient? En sommes-nous vraiment conscients que le Seigneur nous aime? Et nous devons nous rappeler aussi par qui est-ce que Jésus a été vendu? Vous vous rappelez, hein, par qui? Par un des siens, Judas. Par qui a-t-il été renié? Hein, par Pierre, celui qui avait dit, hein, même si toutes les autres t'abandonnent, hein, ben, moi je t'abandonnerai pas. Alors il a été renié par Pierre. Et par qui est-ce qu'il a été abandonné? Hein? Lorsqu'on est venu pour se saisir de Jésus, la parole de Dieu nous dit, hein, tous l'ont abandonné. Ils ont tous pris la fuite. Tous les disciples, tous les siens, ceux qui étaient avec lui dans ce lieu de prière, dans le jardin, qui auraient dû rester autour de Jésus pour le supporter, ils l'ont tous abandonné. Et pourtant, lui, Jésus, en quittant le ciel, s'est engagé à venir ici-bas, mourir pour nos péchés, nous racheter et ensuite nous transformer pour nous rendre de plus en plus semblables, non pas à nos frères, mais semblables à lui, semblables à Jésus. Est-ce que nous sommes, comme on a entendu dans la première réunion, des personnes douces et humbles de cœur? Vous allez me dire, ben, moi je suis venu au Seigneur, mais j'ai toujours mon caractère, ça fait partie de moi. Mais quand on vient au Seigneur, hein, on est renversé, on est bouleversé. Si on était violent, le Seigneur change nos vies. Si on était timide, si on est gêné de parler de la parole, eh bien le Seigneur change nos cœurs. Il nous donne la parole pour pouvoir témoigner que le Seigneur nous aime et que c'est vrai, que ça fonctionne. Dieu change des vies. Jésus est prêt à changer ta vie. Est-ce que tu es prêt à vouloir qu'il change ta vie? Le cinquième pas, le cinquième ingrédient, au verset 13, c'est quelqu'un dont les pas du passé sont passés. Il y a cette expression, oubliant ce qui est en arrière. Malheureusement, trop de chrétiens dans nos milieux évangéliques, trop de personnes qui se disent chrétiens, ils sont encore pris avec leur passé. Que ce soit les blessures, que ce soit la vie passée. Mais Satan, lui, il lutte. Il lutte contre nous pour que nous regardions toujours à notre passé. Alors que pourtant, le passé, on devrait l'oublier parce qu'il est en arrière de nous. Il n'y a rien dans notre vie passée que nous pouvons changer. Tout est du passé. Mais à cause de tout cela, les personnes sont empêchées de s'engager pour le Christ. Il y a beaucoup de chrétiens qui viennent de semaine en semaine, qui nous disent avoir accepté Jésus comme Sauveur et aussi comme Seigneur de leur vie, et qui pourtant sont toujours accrochés avec le passé, et qui ne font pas le pas d'avance en ayant cette communion, cette relation avec le Christ qui va transformer leur vie. Et ils demeurent toujours là, dans ce même pas. Vous pourrez relire chez vous, je vous le dis comme cela, dans le livre de la Genèse, vous connaissez à partir, je pense, du chapitre 37 et aller jusqu'à la fin, l'histoire de Joseph. Vous vous rappelez, hein? Joseph, il a été vendu par qui, lui aussi? Par ses frères. Il n'était pas aimé de ses frères parce que il avait reçu vraiment des songes qui lui montraient ce que Dieu allait accomplir un jour dans sa vie. Puis Joseph, tout jeune, raconte à ses frères et à son père ce qu'il a eu en songe. Et puis là, hein, vous savez, les frères n'étaient pas trop de bonne humeur après. Et alors, hein, on a trouvé un complot, puis on va s'en débarrasser. Et là, à un moment donné, ils ont vendu Joseph. Mais, X temps après, vous connaissez les Écritures, j'espère que vous les connaissez, que vous vous rappelez, hein? X temps après, il est arrivé une famine, et puis le père des frères de Joseph dit aux frères de Joseph, « Allez dans le pays et allez nous acheter du blé, hein? On a besoin pour avoir de la nourriture. » Alors, les frères de Joseph, ils sont allés, et là, Joseph, que Dieu avait préservé puis qui avait conduit d'une façon vraiment spéciale, hein, à la tête de ce pays, il voit ses frères. Alors, vous pouvez vous imaginer, moi je m'imagine un peu le scénario, hein, si on ne connaîtrait pas les Écritures, hein, Joseph, bon, c'est mes frères, puis c'est ceux de ma famille qui m'ont vendu, hein, on va se payer une bonne soupe, hein. On va les faire pâtir un petit peu, hein, on va les passer au tordeur, eux autres aussi. Moi, j'ai souffert. J'ai été vendu. Un pays que je ne connaissais pas la langue, puis j'ai dû apprendre beaucoup de choses, puis j'ai été jeté en prison. Par une accusation qui n'était pas valable, mais toutes ces choses-là, je les ai. Mais pourtant, non, hein, c'est pas ce qu'on lit dans les Écritures. On voit que Joseph, en reconnaissant ses frères, hein, il est tout ému. Il n'est pas capable de leur parler, puis il se retire à plusieurs reprises pour aller pleurer. Et alors, quand il se révèle à ses frères, eux ont eu la peur de leur vie. Ils se sont dit, ah ben ça y est, on va payer pour aujourd'hui. Mais non. Joseph a oublié ce qui était en arrière. Et puis il s'est saisi de ses frères, puis les a entourés, puis avec amour, hein, il les a tous embrassés. Il les a tous serrés contre lui. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Parce qu'il a mis en arrière ce qui était en arrière. Vous savez, il y a des blessures du passé qu'on pourrait rappeler, qu'on pourrait ramener. Mais qu'est-ce que ça va nous produire? Des problèmes de santé? Des problèmes spirituels? Est-ce que ça va régler notre cas? Mais non. Qu'est-ce qui peut régler le cas? Oublions ce qui est en arrière, pardonnons et marchons de l'avant. Ça, c'est ce que le Seigneur veut faire avec chacun de nous. Et c'est ce qu'il nous dit ce matin pour chacun de nous dans ce cinquième pas. Le sixième ingrédient, si je suis vraiment engagé pour le Christ et que les pas du passé sont passés, eh bien maintenant, je devrais être un modèle. Un modèle pour les autres. Est-ce que Paul est un peu orgueilleux parce qu'il dit aux chrétiens, soyez mes imitateurs. Soyez tous mes imitateurs. Vous savez, c'est important pour les chrétiens d'être des modèles. Moi, il y a des modèles. Il y en a parmi vous peut-être qui ne me connaissaient pas beaucoup, mais j'ai fait partie de l'Assemblée du Cap-de-la-Madeleine très jeune, à l'âge de 15 ans, puis j'ai grandi au sein de cette Assemblée, puis il y a des personnes qui m'ont marqué au sein de l'Assemblée. Et il y a des exemples que j'ai marqués sur ma feuille, puis deux familles, en tout cas, que je me rappelle, entre autres, qui m'ont beaucoup marqué. Pourquoi? Ben parce que c'était des grands prédicateurs, puis non, c'est pas ça qui m'a marqué le plus. Vous savez, quand je vais vous citer les exemples, vous allez vraiment comprendre. Il y avait, pas loin de l'Assemblée ici, où c'était autrefois, sur la rue Lupien, il y avait une petite rue qui s'appelle de côté la rue Turmel. Et puis notre sœur Diane va reconnaître ce que je veux dire, parce que j'aimerais ça vous citer en exemple les parents de Diane, monsieur et madame Beaulieu. Vous savez, pour moi, ça a été un exemple. J'étais tout jeune chrétien, et puis je me rappelle de M. Beaulieu puis Mme Beaulieu, qui était quand même un peu plus avancée en âge, brotsou, hein? Beau temps, mauvais temps, il s'en allait à la Réunion, à l'Assemblée du Cap. Beau temps, mauvais temps, il n'y a rien qui les arrêtait. Si on avait des prédicateurs invités qui venaient pour passer la semaine, eh bien, jour après jour, ils étaient fidèles. Pourtant, M. Beaulieu n'a jamais prêché. Il n'a jamais fait de prédication ouverte. Mais pour moi, ça a été une prédication de fidélité, de voir comment cet homme, avec sa femme, fidèle, beau temps, mauvais temps. Et puis, il y a une autre famille Beaulieu que Lucie va reconnaître aussi, hein, son père et sa mère. Je me rappelle que souvent, on s'en venait, on traversait les deux ponts et on voyait Mme Beaulieu et Monsieur et Mme Beaulieu, Jean-Paul et sa femme, hein. Eux autres aussi, bras-dessous, puis s'en venaient de Trois-Rivières, de la rue Sainte-Marguerite à Trois-Rivières, jusque pour venir ici au Cap-de-la-Madeleine pour pouvoir être là, assister. Pas juste pour avoir des réunions, hein, mais parce que Dieu est important pour eux. Et vous savez, pour moi, ça, c'est tout un modèle à suivre. Des chrétiens fidèles. Et le Seigneur a besoin de nous que nous prenions cet engagement, Seigneur, fais de moi un chrétien puis une chrétienne fidèle. Peut-être que j'apporterai pas beaucoup de paroles, peut-être que j'aurai pas l'éloquence de prêcher puis de faire quoi que ce soit, non. Mais que par mon témoignage de fidélité, puis on pourrait en mentionner beaucoup d'autres, qui étaient là autrefois, qui ont été fidèles. Fidèles au Seigneur, malgré tout. Et vous savez, nous, quelquefois, parce qu'il fait un petit peu mauvais. Pourtant, hein, on a l'auto avec le démarreur à distance, on n'a qu'à peser sur le bouton, hein, puis l'auto passe, est réchauffé. Et tu sais, ça ne me tente pas d'y aller un matin parce qu'il ne fait pas trop beau. Ou ça ne me tente pas de servir le Seigneur aujourd'hui, d'aller faire une visite ou d'aller essayer de parler du Seigneur à quelqu'un. Ça ne me tente pas. Pourtant, ces personnes-là, il n'y avait pas autant de confort, mais pourtant, ils étaient fidèles. Il y a eu beaucoup de chrétiens fidèles. Puis c'est pour ça qu'il y en a parmi nous qui sommes là ce matin. On a vu le témoignage vivant de vie transformée pour le Seigneur. Et le dernier point qu'on va voir ce matin, c'est quelqu'un qui sait qui je suis et ce qui s'en vient pour moi. Est-ce que vous savez qui vous êtes? Oui, oui. Moi, je suis Jean-Louis Montembeau, mais j'espère que je ne suis pas juste ça. J'espère que je suis un enfant de Dieu, un chrétien, un citoyen des cieux. Et ça devrait changer ma mentalité. Je ne suis pas juste un passant sur la terre pour vivre pendant X années, pour avoir le confort, le bien-être, être bien, avoir une bonne femme, un beau foyer, tout ça. Oui, c'est bien, mais il y a quelque chose de plus important que ça. C'est que je suis un citoyen des cieux et je suis, à l'heure actuelle, que de passage sur cette terre. Et vous et moi, on ne sait pas combien de temps il nous reste ici-bas sur la terre. On ne sait pas, hein? Le jour ou l'heure que le Seigneur va nous rappeler à lui. Mais il faut considérer qu'on est des citoyens des cieux et que ça devrait paraître. Notre corps ne devrait pas être pour les choses matérielles. C'est bon d'avoir des possessions, d'avoir certaines choses. Mais mon corps ne doit pas être à ces choses matérielles, mais il devrait être au Seigneur Jésus. Et puis j'espère que c'est cela pour chacun de nous. Pourquoi? Parce que c'est les choses d'en haut que nous attendons. Hein? Nous attendons quelque chose d'en haut, Jésus, qui, très bientôt, nous l'espérons, va venir nous chercher et il va nous emmener dans ce ciel si merveilleux où à l'heure actuelle il est avec son Père Céleste et où nous serons tous ensemble réunis avec lui pour l'éternité, pour pouvoir le louer, pour pouvoir l'adorer. Mais vous savez, pour faire cela, il y a un début ici-bas sur la terre. Vous voulez vraiment être digne, puis être un homme, puis une femme parfaite, accomplie, selon le désir de Dieu, relisez les versets que nous avons lus ce matin et demandez au Seigneur, peut-être confessez, Seigneur, ce matin, je veux te confesser que je n'ai pas toujours été comme j'aurais dû. J'ai péché, Seigneur, parce que, oui, je t'ai accepté comme mon sauveur. J'ai dit que tu étais le Seigneur de ma vie, mais je n'ai pas eu toujours cette communion, cette relation qui aurait fait que je me serais engagé pour toi, que j'aurais donné ma vie, que j'aurais mis de côté toutes ces choses qui m'obstaquent. J'aurais mis en arrière de moi, oubliant toutes ces choses, puis je me serais porté plutôt en avant en étant un modèle. En étant un modèle parce que je suis une personne qui n'est pas attirée par les choses matérielles, mais je suis un concitoyen des cieux qui attend celui que j'aime. Alors j'aimerais ça vous poser la question ce matin. Est-ce que vous aimez vraiment Jésus, celui que vous dites avoir comme sauveur et comme Seigneur de votre vie? Vous savez, moi, là, je ne suis pas là pour vous juger ce matin. Le Seigneur parle aussi à mon cœur. J'ai à me juger moi-même à travers ce qu'on a vu ce matin. Mais que le Seigneur puisse nous parler ce matin. Il a besoin de nous. Comment est-ce qu'il va se servir? Vous savez, on a parlé de ces pays en dehors, hein, où il y a cette souffrance pour les frères et les sœurs. Mais comment est-ce que le monde va entendre parler du Seigneur Jésus si on n'est pas accompli et propre au service de Dieu? Dieu veut avoir des personnes qui sont propres pour son service. Et il a besoin de chacun de nous. Ce n'est pas lui qui va venir ici-bas. Il a besoin de nous parce qu'il vit en nous et il veut que l'on reflète vraiment cette paix et cette certitude que nous le connaissons comme Sauveur et Seigneur. On va baisser nos têtes et on va prier. notre Dieu, notre bon Père céleste, avant d'avoir ouvert ta parole ce matin, on a chanté ce cantique. Parle-nous. À tes pieds, nous voulons nous placer. Et nous voulons vraiment, Seigneur, d'une façon spéciale ce matin, que tu parles à nos cœurs. Que tu nous instruises. Que tu nous montres ta volonté. Seigneur Dieu, on ne comprend pas pourquoi tu nous as aimés, pourquoi tu nous as choisis. Mais il y a une chose que nous savons. Tu nous as aimés. Tu es venu ici-bas. Tu as payé la dette de nos péchés. Et nous, maintenant, nous t'avons comme Seigneur de nos vies. Aide-nous à vivre cette relation intime et personnelle avec toi. Aide-nous à s'engager, Seigneur Dieu, à te servir. Que nous ne soyons pas des personnes qui marchons ralentis, mais que nous courions dans ce but de cet engagement pour toi, Seigneur Dieu. Aide-nous à oublier ce qui est en arrière. Laissez le passé de côté, mais regardez en avant. Et aide-nous, Seigneur Dieu, à être des modèles pour nos frères et nos sœurs, que l'on puisse, Seigneur Dieu, en nous regardant, pouvoir te voir à travers nos vies. Parce que, Seigneur Dieu, nous sommes des citoyens des cieux et nous attendons bientôt que tu viendras nous chercher et nous prendre auprès de toi. Bénis toutes les personnes qui se trouvent ici ce matin. Réponds, Seigneur Dieu, aux besoins des cœurs de chaque chrétien, de chaque personne qui se trouve ici dans cette salle. Et garde-nous, Seigneur Dieu, dans tes voies. Bénis cette Église, qu'elle puisse grandir spirituellement et aussi en nombre. Et prépare-nous pour ton retour, en ton nom et pour ta gloire. Amen.